Vatican News, le journal, il est 8h30.
Le pape François rappelle aux fidèles la nécessité de vivre en étant disciple de Jésus par la charité et l'adoration. C'est le sens de ses paroles prononcées hier lors de la prière de l'Angélus. Le compte-rendu au début de ce journal. L'Afghanistan de nouveau défiguré par un attentat meurtrier ce week-end. Un kamikaze s'est fait exploser lors d'une fête de mariage à Kaboul, tuant 63 personnes. Le pays qui n'arrive pas à rompre avec la spirale de la violence. Nous entendrons notre correspondante sur place. Dans ce journal également, la situation humanitaire toujours critique à bord du navire Open Arms. Ce bateau d'une ONG espagnole est toujours amarré face au port italien de Lampedusa, mais les autorités refusent que les 107 migrants pris en charge sur le navire puissent débarquer sur le sol italien. Nous parlerons aussi de cette première tournée européenne de Boris Johnson, le nouveau Premier ministre britannique, partisan d'un Brexit sans accord. Et puis dans notre dossier, direction la Turquie, où les réfugiés syriens sont de moins en moins désirables dans le pays. Le gouvernement turc a annoncé qu'ils avaient jusqu'au 20 août pour regagner les provinces turques où ils ont été enregistrés sous peine d'être arrêtés.
Le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, le pape François a prononcé hier la prière de l'Angélus devant les fidèles réunis place Saint-Pierre. En commentant l'évangile du jour tiré de Saint-Luc, le pape François est revenu sur les paroles de Jésus à ses disciples où il explique le sens de sa venue dans le monde. « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé », le compte-rendu d'Adélaïde Patrignani.
Dans cet évangile, on entend Jésus dire « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé ». Par ces paroles, a expliqué François, les disciples sont invités à abandonner toute attitude de paresse, d'indifférence et de fermeture, pour accueillir le feu de l'amour de Dieu, un feu par lequel l'homme est sauvé. Et cette mission est aussi la nôtre. Cette adhésion au feu de l'amour exige deux choses, a insisté le pape. L'adoration envers Dieu et la disponibilité à servir le prochain. Les deux sont essentiels et l'Esprit Saint est là en nous pour nous aider. Ainsi, l'Évangile se manifeste vraiment comme le feu qui sauve, qui change le monde à partir du changement du cœur de chacun. Dans ce passage, le Christ affirme aussi qu'il est venu mettre la division. Autrement dit, a expliqué François, il est venu briser les illusions faciles de ceux qui croient pouvoir combiner la vie chrétienne avec des compromis de toutes sortes. Être chrétien exclut donc toute hypocrisie. Dans les situations concrètes, a conclu le pape, il faut toujours témoigner de l'Évangile qui est amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs, quitte à payer le prix de ses choix conformes à la parole de Dieu.
Adélaïde Patrignani, plus d'informations sur cet Angélus à retrouver bien sûr sur notre site internet vaticannews.va. Une marée humaine de nouveau dans les rues de Hong Kong hier. Malgré la pluie battante qui est tombée sur la ville, des militants en pro-démocratie sont descendus par centaines de milliers pour afficher leur détermination. Selon les organisateurs, ils étaient plus d'1,5 million. Ils souhaitent toujours le départ de la chef de l'exécutif Carrie Lam, proche de Pékin, mais aussi du responsable de la police qui a réprimé les manifestations. La Chine a amassé d'importants moyens militaires à Shenzhen, la frontière avec Hong Kong, faisant craindre une répression sanglante. Donald Trump a mis en garde Pékin hier soir. Un nouveau Tiananmen compromettrait la signature d'un accord commercial, a averti le président américain. Les États-Unis, qui n'ont plus la prééminence militaire dans le Pacifique et pourraient avoir de plus en plus de difficultés à défendre leurs alliés contre la Chine, c'est ce qui ressort d'un rapport publié ce lundi par un centre de recherche australien. Le Centre des études sur les États-Unis de l'Université de Sydney fait état d'une armée américaine mal préparée et dont les capacités sont dangereusement dépassées. Ces faiblesses font que la Chine pourrait s'emparer de territoires taïwanais, d'îles administrées par le Japon ou de zones de mer de Chine méridionale avant que les forces américaines n'ait le temps d'intervenir. Direction à présent l'Afghanistan, où la capitale Kaboul a de nouveau été endeuillée par un attentat suicide meurtrier ce week-end. Alors qu'Américains et Talibans se disent proches d'un accord de paix, 63 personnes ont été tuées, 180 autres blessées dans cet attentat qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Le kamikaze s'est fait sauter alors qu'il s'était infiltré dans une cérémonie de mariage rassemblant des centaines de personnes. L'organisation État islamique a revendiqué l'attentat. Les précisions de Sonia Ghezali à Kaboul.
La fête battait son plein quand l'explosion a retenti vers 22h40 dans la salle des fêtes située dans un quartier Hazara, la minorité chiite du pays. L'attaque a été extrêmement violente, comme le montrent les photos des témoins sur place qui rapidement les ont postées sur les réseaux sociaux. On y voit une salle des fêtes dévastée, des cadavres qui jonchent le sol au milieu des flaques de sang, de débris, des tables éventrées, des chaises renversées. Le kamikaze se trouvait, semble-t-il, près d'une estrade où se tenaient les mariés quand il a déclenché sa charge. L'attentat revendiqué par le groupe État islamique intervient alors que les talibans et les Américains, qui sont en pourparlers de paix depuis plusieurs mois, font des déclarations pour dire chacun de leur côté qu'ils n'ont jamais été aussi proches de signer un accord. Mais la situation est très confuse. Les autorités afghanes ne participent pas aux négociations puisque les talibans les considèrent comme illégitimes. Sonia Ghezali, Kaboul, pour Vatican News.
La situation est toujours critique à bord de l'Open Arms, ancrée à quelques enjambées des côtes de Lampedusa, cette île au sud de l'Italie. La situation sanitaire à bord du bateau de l'ONG espagnole est de plus en plus précaire après 17 jours d'attente, avec encore 107 migrants à bord. L'Espagne a proposé d'ouvrir ses portes, mais le port proposé d'Algésira s'est jugé beaucoup trop éloigné par les responsables de l'organisation. Quant à l'Italie, elle reste ce matin encore sur une position de fermeté, Jean-Charles Puzzoli.
Oui, Olivier, ce navire a tout vu passer depuis 17 jours, le refus du ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, les lettres du Premier ministre Conte pour demander de faire débarquer les 107 rescapés encore à bord, et dernier épisode dramatique hier, 4 migrants qui se jettent à l'eau pour tenter de rejoindre à la nage Lampedusa à quelques centaines de mètres. C'est de l'Espagne qui est arrivée une première ouverture, mais le port proposé était trop loin. Ce matin, l'ONG semble accepter le transbordement des passagers sur un autre bateau pour qu'ils puissent débarquer en Espagne. Et à cela, n'oublions pas de mentionner que l'Open Arms ce n'est pas le seul navire dans cette situation. L'Ocean Viking, affrété par MSF et SOS Méditerranée, erre également au grand large avec 356 migrants à son bord, sans qu'aucune solution ne soit en vue encore ce matin. Il y a donc 463 migrants à bord de deux navires, 463 vies humaines sur lesquelles il ne devrait pas être permis de spéculer. Samedi, le pape François, dans un message au meeting de Rimini, rappelait encore que trop de nos contemporains, des milliers d'individus qui fuient les guerres et la pauvreté, ne sont considérés que comme des statistiques, mais ce sont des noms, des personnes, et cela, nous ne devons jamais l'oublier.
Merci Jean-Charles Puzzoli. L'Italie, où le corps de Simon Gauthier était localisé hier, cet étudiant en histoire de l'art à Rome, était parti faire un trek sur la côte au sud de Naples. Le 9 août dernier, il avait lancé un appel au secours en expliquant être tombé d'une falaise et s'être cassé les deux jambes, et l'on était depuis sans nouvelles de lui. Des équipes de secouristes et des proches venus de France s'activaient depuis plusieurs jours pour retrouver sa trace. Sa dépouille devrait être remontée ce matin. Boris Johnson en tournée européenne cette semaine. Le nouveau Premier ministre britannique rencontrera pour la première fois le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel avant le sommet du G7 de Biarritz le week-end prochain. Mais les services du Premier ministre ont prévenu qu'il ne fallait pas s'attendre à attendre à des prises de contact, une percée sur le Brexit que Boris Johnson souhaite effectif et sans accord le 31 octobre prochain. À Londres, Jean Jaffré.
Depuis son arrivée au pouvoir, il y a 4 semaines, Boris Johnson a surtout concentré son action sur la politique intérieure. Il a annoncé une série de mesures non budgétées, notamment dans le domaine de l'éducation, la santé, la sécurité et pour les infrastructures. Des élections législatives anticipées en novembre ne font guère de doute. Et à propos du Brexit, il continue de marteler que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne le 31 octobre, avec ou sans accord. D'emblée, le nouveau Premier ministre avait placé la barre très haut. Pas question de s'asseoir à la table des négociations si les 27 autres États membres n'acceptent pas de renoncer au backstop, c'est-à-dire la garantie qu'on ne rétablira pas de contrôle à la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Garantie qui figure dans l'accord conclu par Theresa May. Bruxelles, pour le moment, maintient son refus de rouvrir les négociations, d'autant que le nouveau gouvernement n'a qu'une voix de majorité. Par ailleurs, des députés des partis d'opposition et des rebelles conservateurs s'activent en coulisses pour se saisir de l'ordre du jour lors de la rentrée parlementaire et tenter d'empêcher par le vote d'une motion une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord, potentiellement catastrophique pour l'économie. Londres, Jean Jaffré pour Vatican News.
Un mot d'Afrique où l'état d'urgence a été déclaré dans deux provinces de l'est du Tchad après un nouveau regain de violence intercommunautaire. Des affrontements entre cultivateurs et éleveurs qui ont fait ces dernières semaines plus de 50 morts dans cette région située non loin de la frontière soudanaise. C'est d'ailleurs à la crise soudanaise que le président tchadien Idriss Déby lie ces affrontements. Il a appelé ses forces militaires à désarmer les civils, quitte à en tuer de chaque côté. La Convention tchadienne de défense des droits humains dénonce un appel au massacre. Les réfugiés syriens sont plus de 3,5 millions à vivre en Turquie depuis le début du conflit il y a 8 ans et demi. Une situation qui devient de plus en plus difficile pour l'État turc et provoque des tensions avec la population. À la fin du mois de juin, des violences avaient visé des réfugiés syriens mais aussi leur commerce dans la ville d'Istanbul où ils sont au moins 350 000. Ces réfugiés se sentent de moins en moins en sécurité dans un pays qui les a accueillis les bras ouverts. Le gouvernement turc a annoncé que les réfugiés syriens auraient jusqu'au 20 août, c'est-à-dire demain, pour regagner les provinces turques où ils ont été enregistrés en arrivant sur le sol turc, sous peine d'être arrêtés, sanctionnés et même renvoyés dans ces provinces. Certains réfugiés ont d'ailleurs même été renvoyés dans la province d'Idleb, pourtant en guerre. Alors comment expliquer cette défiance vis-à-vis de ces réfugiés syriens? Nous en parlons ce matin avec le père Claudio Monge. Depuis 16 ans, ce religieux dominicain, auteur d'une thèse sur l'hospitalité dans les religions abrahamiques, vit à Istanbul.
La situation de ces réfugiés est devenue très difficile, en raison surtout du fait que s'ils étaient tout au début de ce qui a été la crise syrienne, on imaginait de pouvoir les garder dans des camps de réfugiés presque à proximité de la frontière syrienne elle-même. Depuis des années, cette présence s'est répandue sur l'étendue de la Turquie même, et notamment a comporté des arrivées inattendues, énormes, dans des grandes villes, notamment dans Istanbul. Et donc, l'objectif aussi politique actuellement, depuis un certain temps, c'est d'alléger le fardeau des Syriens qui représentent désormais presque le 4% de plus de 16 millions d'habitants d'Istanbul. Malheureusement, après toute une rhétorique aussi politique et parfois toute une campagne montée aussi par des médias, etc., fait que les amis, les frères, au nom de la solidarité islamique d'autrefois, devient actuellement les ennemis, ceux qui mettent en danger la nation turque, l'économie turque et toutes les questions sécuritaires, des propagandes qu'on connaît très très bien aussi au nord de la Méditerranée.
Comment se traduit l'hostilité des Turcs vis-à-vis de ces réfugiés aujourd'hui? Comment a-t-elle évolué dans le sentiment populaire?
Elle peut prendre aussi des formes carrément de xénophobie et de racisme, des phénomènes auxquels on assiste, hélas, dans des situations bien différentes, évidemment. Au nord de la Méditerranée, commence à être assez très présente aussi, par exemple, à Istanbul. L'antipathie du public à l'égard des réfugiés considère qu'ils sont la cause, justement, de la perte d'emploi, qu'ils conduisent des activités criminelles dans des gangs, etc. Il y a eu des rumeurs absolument pas non corroborées de harcèlement sexuel à la rencontre de femmes et d'enfants turcs de la part de réfugiés, donc mâles syriens, etc., dans diverses régions du pays, pas seulement dans la grande ville. Et il y a des fondations, comme la Fondation de la solidarité pour les femmes basées à Istanbul, qui a déclaré que les Syriens non enregistrés à Istanbul craignent maintenant de quitter leur domicile même et que les entreprises turques hésite de plus en plus à les embaucher en raison de la réaction négative du public. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est nouveau, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que quelques 300 000 naturalisations de Syriens ont été faites dans les dernières 2 ans dans un projet qui était aussi un projet de type électoral pour enrichir un petit peu les rangs des supporters du parti au gouvernement.
Est-ce qu'il y a des pistes pour l'avenir qui s'ouvrent ou au contraire, est-ce que les horizons sont bouchés? Est-ce qu'il y a une société civile qui vient en aide à ces personnes et qui essaye de porter le débat public ou est-ce que vous êtes moins optimiste?
Pour ce qui est du débat politique en Turquie, pour ce qui est de la présence de ONG, même turques, en Turquie, dans les grandes villes et même en Anatolie, etc., il y a une présence et un travail qui est absolument remarquable et parfois totalement inconnu et négligé. Ça, il faut le dire. La société turque est une société très vivante. Donc, de ce côté-là, je reste tout à fait optimiste pour certains aspects, d'autant plus que la société turque est une société très jeune. jeunes. Évidemment, ça reste vrai que, pour rester sous la question des réfugiés, tout partant de sa propre terre, de son propre pays, a retrouvé sa terre, son pays natal. Mais actuellement, on sait très bien que dans plusieurs régions de ce monde-là, est tout à fait impossible imaginer de construire un futur.
Voilà, le père Claudio Monge, dominicain résident à Istanbul, était ce matin l'invité de la rédaction. Et ainsi s'achève ce journal. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera comme chaque jour à 13h en direct de Rome. Je vous souhaite une excellente journée.